Orientation scolaire. Mais moi, je fais pas Parcoursup.
Ah bah, c'est sûr qu'ils savent pas ce qu'ils veulent faire. Pas du tout, pas du tout. Il est en école de commerce parce qu'il sait pas ce qu'il veut faire et ça l'orientera. Moi, je suis sorti de... Moi, j'ai fait Dauphine. Je savais pas ce que je voulais faire.
Bonjour à toutes et à tous, quelle joie de vous retrouver pour un nouvel épisode de Zoom Zoom Zen. 2 heures chaque après-midi pour décrypter notre époque à travers ses mots, ses expressions. Et aujourd'hui, on va se pencher sur un processus qui revient à chaque printemps, comme les hirondelles, les primes verts et la libido de Quentin. La question de l'orientation scolaire. Comment vos enfants sont-ils orientés en 2026? On entend souvent parler, pas toujours en bien, de la plateforme Parcoursup, dont le fonctionnement reste opaque pour beaucoup d'entre nous. Mais ce qui reste opaque aussi, c'est comment se passe l'orientation au sein même des établissements. Où sont passés les conseillers en orientation? Pourquoi ont-ils été remplacés par des psy-EN, les psychologues de l'éducation nationale? Quel est leur rôle exact? Les profs eux-mêmes sont-ils désormais partie prenante dans l'orientation de leurs élèves? On va examiner tout ça. Une chose est sûre, même si tout est loin d'être parfait, on ne peut honnêtement pas dire, comme le répète Cyril chaque midi au bistrot Blériot, que c'était mieux avant. En matière d'orientation scolaire, non, ce n'était pas mieux avant. Il n'y a qu'à voir nous ici. Quentin, mal aiguillé par un conseiller d'orientation à Lancenay, certainement bourré au calva, s'est retrouvé VRP pour les Cafés Richard alors qu'il avait pourtant un projet professionnel solide. Il voulait devenir star du rock, comme Dick Rivers. Manon. Pauvre Manon, elle qui avait manifesté si tôt des dons de comédienne qui ferait passer Isabelle Huppert pour une actrice de série B. Donc elle distille encore parfois, de ci de là, au détour d'une autopromo bien écrite.
Peu cher, oh bonne mère, oh
ça me gêne.
Seul Benoît Magimel dans la série Marseille avait atteint ce degré d'authenticité. Ce malheureux Cyril Lacarrière qui a eu pour seul tort de grandir dans la fureur des années 70, où son principal objectif n'était pas de décrocher le bac, mais de remporter l'élection du meilleur sosie de John Travolta de Ponto Combo.
C'était fait.
Ensuite, quand il eut raté son bac, c'était déjà trop tard. Avec son côté bougon et son regard perpétuellement noir, le conseil d'orientation l'a orienté d'office vers les métiers de la sécurité. Raison pour laquelle il échoua la trentaine passée au portique de sécurité de l'ambassade américaine à Paris. Quant à moi, je ne reviendrai même pas sur la nullité abyssale de mon conseiller en orientation qui, estimant que mon projet de construire des petits sous-marins unipersonnels en tôle ondulée était voué à l'échec, m'a simplement dit dans un soupir, oh bah toi tu feras de la radio. Zoom Zoom Zen, c'est parti.
France Inter. Zoom Zoom Zen. Noël.
Sophie Vénétité, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Inter cet après-midi. Vous êtes secrétaire générale du syndicat des enseignants du second degré SNES-FSU. Vous êtes vous-même professeur de sciences économiques et sociales au collège Rosa Parks de Montgeron dans l'Essonne. On vous avait invité l'an dernier pour nous parler du programme éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle. Mais si on vous reçoit aujourd'hui, c'est pour un sujet qui intéresse tous les adolescents et tous les parents, l'orientation scolaire. Pourquoi ça paraît si compliqué de s'orienter aujourd'hui? Est-ce que l'éducation nationale oriente bien les adolescents? Qui est en charge aujourd'hui de les aider à faire leur choix? C'est ce que vous allez nous expliquer. Juste le temps de vous présenter deux rescapés de l'orientation scolaire. Elle aurait pu finir quart de finaliste de la Star Academy ou c'est DJ vrai. Electro défoncé au crack. Lui, s'il était resté VRP pour les Cafés Richard, il serait peut-être aujourd'hui un de ces hommes qui portent un mousqueton à la ceinture pour accrocher leurs clés. Oh mon Dieu, il est ça. Marie-Marie, Quentin, lui, bonjour.
Bonjour.
Bonjour à tous.
Mais ça peut être très stylé, un mousqueton en jean.
Mais vous le portez plus d'ailleurs en ce moment.
Je le mets que sur un seul jean.
Ah, très bien.
C'est un jean qui est
dédié.
Pour ça.
Ouais, qui est dédié. Ouais.
Un look bien dédié.
Pour Sophie Vénétité, on va donc dresser un état des lieux de l'orientation scolaire aujourd'hui en France. Déjà, pourquoi Parcoursup, depuis sa création, est toujours vécu comme un moment d'angoisse pour les lycéens et pour leurs parents aussi?
Oui, effectivement, Parcoursup, c'est très angoissant pour les élèves et les parents parce que ça a rendu toutes les filières de l'enseignement supérieur sélectives. C'est-à-dire que c'est même les filières qui auparavant ne l'étaient pas, vous devez déposer un dossier, une lettre de motivation qu'on appelle lettre de projet motivé, ce que vous avez fait dans votre scolarité. Et ce sont des dossiers qui sont étudiés pour pouvoir entrer dans des filières qui pourtant n'étaient pas sélectives. Donc aujourd'hui, par définition, avec Parcoursup, l'entrée dans le supérieur est devenu sélectif et ça met de fait une grosse pression aux élèves à un âge où finalement ils devraient pouvoir réfléchir qu'il y a autre chose qu'une décision qui peut les engager pour plusieurs années. Et par ailleurs, on voit bien aussi que le manque de place à l'université renforce le caractère très sélectif de l'accès à l'enseignement supérieur, puisqu'on manque de place pour accueillir tous les élèves et ça pèse aussi parce que nos élèves voient bien que finalement, des fois, on leur dit, tout simplement, il n'y a pas de place.
On va voir concrètement comment ça se passe, l'orientation pour vos enfants aujourd'hui en 2026. Lui, ce n'est pas tant son 4 en mathématiques au bac G qu'il avait fini par avoir à la 3e tentative, qui lui laisse encore aujourd'hui un goût amer en bouche. C'est le fait de n'avoir été désigné que 7e meilleur sosie de John Travolta de Ponto Combo sur le podium du Why Not. J'avais pourtant mis le paquet sur le pento, mais ce concours, c'était Magouille et compagnie. Analysera à froid, Cyril,
les quelques années plus tard. Jamais.
Cyril, racontez-nous, vous qui n'en avez toujours pas bénéficié, l'orientation scolaire, d'où ça sort ?
Imaginez, c'est le printemps, et autour de la table familiale, on papote à venir, quand soudain, quelqu'un dit le mot qui fâche, Parcoursup.
Oh, wow.
À 14 ans ou à 17 ans, on vous pose déjà la question la plus angoissante du monde, qu'est-ce que tu veux faire de ta vie ? Mais l'orientation, au départ, elle n'a rien de scolaire, elle est professionnelle. En 1928, c'est la création de l'INOP, l'Institut National d'Études du Travail et de l'Orientation Professionnelle. On le doit à un certain Henri Pierron, un pionnier de la psychologie. L'industrie a besoin de bras qualifiés, alors on cherche l'efficacité économique grâce à la psychotechnique. On fait passer des tests de chronométrage, de dextérité ou de logique à des gamins de 13 ans, juste après le certificat d'études. Le but, the right man in the right place, la bonne personne là où il faut. Tu es habile de tes mains à l'usine, tu es bon en calcul à la compta.
Et quand est-ce que ça devient vraiment scolaire ?
Pendant les 30 Glorieuses, d'abord en 1959, puis en 1975, avec la création du Collège Unique, le grand moment couperet se déplace à la fin de la 3e. C'est là qu'apparaît le système des filières, voie générale, technologique ou professionnelle. L'orientation n'est plus un conseil, mais un verdict du conseil de classe. Et puis, comme le bac ne suffit plus, il faut trier pour le supérieur, on invente APB, puis Parcoursup. L'orientation n'est plus seulement faite par un conseiller d'orientation, mais aussi par des algorithmes. Alors, d'où ça sort l'orientation scolaire ? Eh bien, d'une méthode bancale pour faire entrer des jeunes élèves dans des cases, et ce n'est que le début de notre histoire.
Merci Cyril. Sophie Vénétité, vous dites que vous, professeur, vous êtes en première ligne en ce qui concerne l'orientation des élèves. Ça veut dire qu'en plus d'enseigner, vous devez aussi conseiller les élèves. Maintenant, ça fait partie de la fonction de prof aujourd'hui.
Oui, ça fait partie de la fonction de professeur, en particulier des professeurs principaux qui sont ceux qui accompagnent les élèves, notamment dans leur projet d'orientation. Et de fait, on se trouve face aux questions des élèves, de leurs familles, qui peuvent nous demander un peu n'importe quand dans l'année, dans des réunions parents-professeurs ou à la fin d'un cours. Moi, ça m'est déjà arrivé, qui me disent « Madame, qu'est-ce que je dois faire pour faire tel métier ? Est-ce que je dois prendre tel enseignement de spécialité au lycée ?» Et c'est vrai qu'on sent l'angoisse des élèves et des familles qui cherchent à décider de plus en plus tôt, mais aussi le fait qu'elles ne sont pas toutes à égalité dans la capacité à faire le bon choix. Donc les professeurs sont en première ligne, notamment les professeurs principaux, et parfois ils ont en raison des orientations politiques qui ont été prises, pris un peu la place des psychologues de l'éducation nationale, dont c'est pourtant quand même
la mission.
Un rôle
parce qu'il faut
essentiel.
Pour les vieux comme moi, il faut quand même rappeler, moi il y avait des conseillers en orientation, oui, ça n'existe plus.
Non, ça n'existe
ça
plus.
Ça a été remplacé par des psychologues. Oui. De l'éducation nationale.
Mais qui sont dédiés à l'orientation, ces psychologues ?
Oui. Pas seulement. Ouais. C'est-à-dire que, comme le nom l'indique, il y a désormais une dimension psychologique assez importante. Et on sait qu'aujourd'hui, on a aussi besoin de ce regard-là, vu l'état de nos élèves. Mais il y a toujours cet accompagnement, cette information sur l'orientation. Là aussi, le problème, c'est que ces collègues ne sont pas assez nombreux. Aujourd'hui, en moyenne, vous avez un psychologue de l'éducation nationale pour 1600 élèves. C'est la moyenne aujourd'hui en France. Et ces personnes sont sur plusieurs établissements. Donc concrètement,
il n'y en a pas un par établissement.
Ils doivent couvrir 2 ou 3 établissements, être dans leur ce qu'on appelle CIO, le centre d'information et d'orientation. Moi, par exemple, je suis dans un établissement où il y a des psychologues de l'éducation nationale sur certaines demi-journées, mais sur d'autres demi-journées, ils ne sont pas là, pas parce qu'ils sont en train de se tourner les pouces, mais parce qu'ils sont dans le collège d'à côté. Et vous imaginez bien que dans un établissement scolaire, ça tend aussi un peu les choses pour suivre tous les élèves. Mais voilà, c'est un psychologue de l'éducation nationale pour 1600 élèves.
Mais vous, en tant que prof principal, c'est à la fin du cours ou alors pendant les rendez-vous parents-prof, il n'y a pas un temps défini à ça ?
Alors, comme souvent dans l'éducation nationale, il y a ce qui est écrit dans les textes qu'on nous donne et puis il y a la réalité.
La
là, par exemple, dans les textes officiels, on devrait avoir, par exemple, au lycée 54 heures d'orientation par an pour les élèves. Et dans les faits, ces 54 heures n'existent pas parce que nous n'avons pas les moyens de le faire. Donc on se retrouve à bricoler où effectivement, à la fin du cours, il y a un élève, là par exemple, on est dans les conseils de classe du deuxième trimestre. Moi, j'ai des élèves avant les vacances qui sont venus me voir en me disant « Bon, madame, je pense que je vais prendre la spécialité sciences économiques et sociales avec ça. Qu'est-ce que vous en pensez ?» Et en fait, on bricole parce que c'est la fin du cours, lui doit aller ailleurs, moi je dois aller voir une autre classe. Et c'est ça aujourd'hui.
C'est pas noté dans un emploi du temps, quoi.
Non, pas officiellement.
L'Institut national du sommeil et de la vigilance vient de présenter une enquête assez édifiante sur le sommeil des Français.
Et 38% des Français et des Françaises ont des troubles du sommeil. Ah ouais ? Donc ça veut dire que 38% des Français aussi dorment avec un mec qui a l'équivalent d'une fanfare de cuivre dans le nez sous prétexte qu'il fait de l'apnée du sommeil. Toutes les nuits, c'est le générique de Kaamelott dans mon lit en fait. J'en peux plus, je suis irritable. Après, je suis mal placée hein, pour critiquer les ronfleurs et les ronfleuses. Quand moi je dors, j'ai carrément Alexandre Astier dans mon zen en train de composer la bande originale du film Kaamelott, partie 1 de l'acte 3, le film de 4h56. Là. Alors, il y a un matin, il y a un voisin qui a sonné à ma porte. Il m'a demandé un autographe parce qu'il était persuadé que je jouais Caradoc. C'est grossophobe en fait. Pardon, excusez-moi, je suis un peu fatiguée. Mais non, j'arrive pas à y croire. Je me suis endormie pendant ma chronique. C'est pas possible. Je dois manquer de sommeil. Comme 38% des Français et des Françaises. Oh là là, j'espère que je vais pas baver devant tout le monde. Bienvenue dans le subconscient de Marie de Brouwer. Ah tiens, Cyril se balade en slip. Mais il a un tatouage tribal en bas du dos. C'est complètement dingue. Il doit être fan de la Nouvelle-Zélande. Et sur une bachata, Marie de Brouwer et son partenaire, Alexandre Astier. Quoi ? Je suis dans Danse avec les Stars. Mais je sais pas danser la bachata, moi. Et pourquoi Alexandre Astier porte un juste corps argenté ? Et deux piercings aux tétons en forme d'épée. D'après Freud, tous les rêves sont érotiques. Je me demande bien ce que ça veut dire. Et 1, et 2, et 3, et 4, et oh purée, je dois sauter dans les bras d'Alexandre Astier, comme dans Dirty Dancing. Il va jamais arriver à me soulever. 3, 2, 1, ah ! Je vole ! Mais littéralement, je vole au-dessus de la ville de Paris. Et si j'essayais de pisser sur l'Arc de Triomphe ? Excellent ! Prenez ça, les touristes ! Attends, mais j'espère que je pisse bien dans mon rêve et pas dans la vraie vie. Oh, j'ai un doute terrible. Oh, je crois que j'ai le jean humide. Oh non ! Marie, réveille-toi ! Marie ! Oh, purée, je me suis assoupie.
Ah oui.
Je suis désolée. J'ai fait un rêve de dingue. Dis-moi Cyril, t'es déjà allé entendre en Nouvelle-Zélande ?
Oui. Merci Marie de Brouwer. À suivre, qui sont les parents alliés ? Ces parents d'enfants LGBTQIA+, comment soutenir son enfant sans en faire trop ? Quentin est allé vous poser la question. Et puis on parlera ensuite démocratie avec Edoui Plenel. Ça tombe bien car demain, on vote. Mais avant, voici Holly Cook, We Share Love sur Inter. We Share Love.
France Inter, les meilleurs moments de Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël et toute sa bande.
Avec nous cet après-midi dans Zoom Zoom, Élodie Petit, autrice de Parents alliés, acceptation, amour, engagement, être parent d'enfants LGBTQIA+, qui regroupe des témoignages de pères et de mères d'enfants gays, dont celui de Florence Desbarres qui est avec nous cet après-midi. Élodie, Florence, dans le livre, il y a cette phrase « Aimer sans condition est un acte profondément politique et vital ». C'est aussi comme ça que vous avez ressenti votre acceptation de l'homosexualité de vos enfants, Florence ?
Moi, j'ai un amour inconditionnel pour mes enfants et voilà. Et j'ai pas bien écouté.
Non, mais je veux dire, c'est quelque chose. Pour vous, est-ce qu'il y a une dimension politique à tout ça ? Est-ce qu'au-delà du fait que ce sont vos enfants et que vous les aimez d'un amour inconditionnel, on l'aura bien compris, est-ce que politiquement, vous trouvez ça normal et bien de vous engager à leur côté et
tout à fait. Tout à fait, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de minorités. Déjà, j'ai toujours été sensible par rapport aux minorités et par rapport à l'homophobie qui est croissante, etc. Et c'est important que les gens, que les parents, se rendent compte que les enfants sont pareils. Quoi. J'ai juste, ils aiment une personne qui est du même sexe qu'eux. Mais ce qui est important, c'est de banaliser, d'être visible et en même temps de banaliser le fait d'être homosexuel ou transsexuel ou de la communauté LGBTQIA.
Élodie, pour faire ce livre, vous avez recueilli beaucoup de témoignages. Les parents vous ont répondu très naturellement. Vous avez été choquée du nombre de messages que vous avez reçus ?
Non, pas du tout. Ouais. J'étais à la chasse aux parents. Ah. Et mon terrain de chasse, c'était la Pride de Paris l'été dernier, où il faisait très chaud. Et donc, on avait peint des pancartes avec marqué « Parents alliés, on vous offre une bière ». Contre votre récit. Alors là, tout le monde s'est transformé en parent allié. Ah, là, j'ai eu plein d'histoires. J'imagine. Par contre, sur les réseaux sociaux, j'ai eu, et ça m'a fait chaud au cœur, j'ai eu vraiment, quand j'ai lancé mon appel à témoins, beaucoup de parents d'enfants trans. Donc ils étaient très présents et je pense que c'est tellement discriminé d'être trans qu'en fait les parents étaient très présents, avaient très envie de témoigner.
On va pas hiérarchiser les difficultés, mais avoir un enfant trans, est-ce que c'est encore plus compliqué quand même que homosexuel
J'imagine en 2026. Que oui. On le voit par exemple aux chiffres de suicides qui sont très élevés dans la communauté trans. Je pense que c'est hyper dur et quand un enfant trans à ses parents de son côté, mais c'est déjà un énorme soulagement pour lui. Quoi. Il peut suivre un traitement, être accepté, continuer à vivre sous son toit, ce qui est déjà énorme.
Ce qui change tout.
Ouais. Ouais.
Quentin ?
Il faut expliquer peut-être pourquoi c'est important pour un enfant de faire son coming out. C'est un acte libérateur.
Oui, franchement, la plupart, ils nous disent ça, ils nous disent on a l'impression de vivre dans le mensonge, ce qui est horrible, parce que chez les hétéros, ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'on présente son mec, sa copine, point. Chez les enfants queer, faut d'abord passer par cette étape, et ils ont l'impression de vivre dans le mensonge, et il y en a qui ne le font pas avant leurs 30 ans. Mais il y a un garçon qui s'appelle Franck, qui témoigne dans le livre, à 14 ans, ça le démangeait de faire son coming out. Il disait, il faut absolument que je le fasse, même si je sais que mes parents vont détester apprendre ça, je suis obligée de le faire parce que sinon j'ai l'impression de leur mentir.
Qu'est-ce qu'il faut éviter en tant que parent quand votre fils ou votre fille fait son coming out ? Parce que on peut avoir des réflexes à la con, dire je sais pas, est-ce que t'es bien sûr de toi ? Est-ce que tu vas pas changer d'avis ? Enfin, j'imagine qu'il y a plein de choses à éviter dans les réflexes comme ça qu'on peut avoir.
Bah alors oui, es-tu sûr de toi ? Virgule, c'est une mode. Mode, c'est les vêtements, c'est plein d'autres choses. Ce qui se passe dans son lit, je ne sais pas si c'est une
autre
mode.
Chose, ouais.
Je pense, Florence, non
voilà. Je suis tout à fait d'accord.
Et en fait, l'écouter, quoi, écouter son enfant parler, parce que c'est sa parole qui compte à ce moment-là.
Mais est-ce qu'on peut avoir un sentiment de peur, peut-être, Florence Desbarres, vous êtes là pour témoigner aussi en tant que parent. Est-ce que vous avez eu peur que ce soit plus difficile pour lui dans la vie que...
C'est la seule chose qui me faisait peur. Le fait qu'il le soit, c'était un non-sujet, en fait. Mais ce qui me faisait peur, c'est le regard des autres. Pas par rapport à moi, hein, mais par rapport à eux, et d'être rejeté, d'avoir cette homophobie même ordinaire, et ces regards déplacés, ces jugements. C'est la seule chose qui me fait peur.
Est-ce que d'une certaine manière, ça vous a rassuré que vos trois enfants soient gays ? Parce que du coup, ils peuvent aussi se comprendre et se soutenir entre eux. C'est une force pour eux.
Alors, en vrai, pour moi, ça n'a rien changé, en fait. Ça ne m'a pas ni rassurée, ni pas rassurée, c'est comme ça. En revanche, pour mon fils aîné, il me l'a dit, c'est que quand son frère lui a dit, moi aussi je me posais des questions, lui venait de faire son annonce et il n'était pas prêt à soutenir son frère à ce moment-là. Puis très rapidement, moi je l'ai su un an après, lui il l'a su un an avant. Et pour sa sœur, c'est pareil, il l'a su avant, parce que c'est l'aîné. Et en fait, il n'y a pas de...
Ils se soutiennent,
il
quoi.
Ouais, tout à fait.
Élodie Petit, dans votre livre, il y a aussi des témoignages intéressants. Quand les parents ont rejeté leurs enfants après leur coming out, ou que les enfants sont queer ou trans, il y a les grands-parents qui peuvent être là et qui peuvent jouer ce rôle de soutien.
Oui, j'ai un grand-père dans mon livre qui s'appelle André, qui est pas tout jeune et qui n'avait limite jamais entendu parler d'homosexualité avant d'entendre son petit-fils lui faire son coming out. Ouais. Voilà. Et pour qui ça n'a pas été un sujet, quoi. Il a eu exactement la bonne réaction, c'est de se dire, bon, bah, ok, enfin, je ne savais pas, mais si t'es heureux comme ça, ça se passe très bien. Et en fait, c'est le minimum, quoi. Ce qu'on demande aux parents, c'est de se dire, ok, très bien. Limite que ce soit un non-sujet, en fait. On peut être un allié en acceptant, ok, t'es homosexuel, t'es lesbienne, t'es gay, très bien.
De toute façon, peut-être ce qu'on peut dire et rappeler, c'est qu'on peut de toute façon rien faire. C'est pas
chacun
choisit la sexualité.
C'est illégal, exactement.
Tout à fait. Et vous, comment géreriez-vous l'annonce par votre fils ou votre fille de son homosexualité? Quentin, qui n'a aucune gêne de vous embarquer sur des sujets intimes, est allé vous poser la question frontalement, comme d'habitude.
Et ma première rencontre, c'est ce monsieur. Manteau noir à capuche, pull bleu marine, d'où dépasse le col bien net d'une chemise blanche. Il marche, les mains dans le dos, avec ses lunettes de soleil posées sur des oreilles qui se perdent dans des cheveux blancs.
Que voulez-vous savoir ? Bonjour, bonjour.
Quel est votre prénom à vous ?
Charles.
Charles, vous avez quel âge ?
Un certain âge, un âge certain.
Il découvre le thème du jour de Zoom Zoom Zen.
Les parents alliés. Pourquoi alliés ? Moi, je dirais plutôt des aliénés, mais on a plus d'aliénés que de nés alliés.
Bon, Charles, il joue avec les mots, mais au moment où je lui parle d'accueillir l'annonce d'un enfant qui se découvre ou s'affirme LGBTQIA+.
Il y a 50 ans de cela, un professeur de mathématiques s'était mis en colère parce que quelqu'un écrivait de la main gauche. Il nous a affirmé qu'il faisait la guerre à son fils parce qu'il écrivait de la main gauche. Aujourd'hui, quelqu'un qui s'affirme LGBTIA, là, IA, c'est intelligence artificielle plus, c'est quoi ça? C'est quoi QIA+?
Peut-être qu'on peut rappeler la définition, hein, lesbienne, gay, bisexuelle, trans, queer et intersexe, asexuelle ou aromantique. Je le trouve touchant, Charles, parce qu'il parle de l'intolérance à la différence à travers un exemple presque banal à son époque, être gaucher. Longtemps, on a forcé les enfants à écrire de la main droite, comme si la différence était une erreur à corriger. Alors pour ce qui était de la sexualité à l'époque, on imagine sans peine à quel point la norme pouvait devenir une forme de pression. Plus loin, Lisa, veste nouée autour de la taille, crop top noir, elle découvre...
Les parents alliés.
C'est bien.
C'est vrai que j'ai des amis qui l'ont vécu et que c'est de plus en plus courant, mais je pense que c'est vraiment dans notre époque et qu'avant c'était pas forcément le cas.
Ils sont tous alliés ou ils tolèrent ?
Ah, il y en a beaucoup qui tolèrent, c'est vrai. Enfin, je sais que ma grand-mère, elle m'en parle par exemple, et elle dit que c'est souvent une souffrance pour les parents, mais qu'ils le tolèrent.
On parle d'un moment souvent clé, le coming out.
J'ai des amis qui l'ont pas forcément annoncé, mais petit à petit, en grandissant, à l'adolescence et tout, enfin, à force, c'est aussi aux parents, je pense, d'observer et d'en tirer les conclusions sans forcément que ce soit la grande annonce.
Ouais, alors c'est intéressant, mais et en même temps, on dit que le coming out est hyper important dans la construction de ce dialogue-là. Toi, tu penses qu'il faudrait peut-être pas sacraliser ce moment-là ?
Ouais, enfin, certaines personnes peut-être ont besoin, si personne s'en doute, on va dire, mais c'est vrai que ça fait aussi un poids pour certains de dire bah, « il va falloir que je fasse mon coming out à un moment, il faut que ce soit le bon moment », alors que ça ne doit pas forcément être une question.
Et je m'interroge, en réfléchissant à cet échange, sur l'importance, parfois presque la mise en scène qu'elle dénonce, de ce passage obligatoire qu'est le coming out. Est-ce qu'il est vraiment nécessaire ou faut-il simplement vivre sa vie ? Ma dernière rencontre, c'est cet homme, doudoune matelassée, sac à dos, il marche dans Paris.
Bonjour.
Quel est votre prénom à vous ?
Julien.
Julien, vous avez quel âge ?
53 ans.
Et vous venez d'où ?
Du Périgord, de Dordogne, Ponant.
Connaît-il les...
Les parents alliés.
Vous êtes parent ?
Je suis parent.
Vous êtes allié ?
Ça tombe très bien, parce que j'ai une fille qui est LGBT queer, donc c'est parfait. Je suis un allié, je le savais déjà.
Il me parle de sa fille qui est arrivée un jour à la maison avec une copine.
Elle a eu aucun souci, je pense, dans notre famille, à être acceptée telle qu'elle était. C'est-à-dire ce qu'elle veut, en fait. En revanche, dans la société, effectivement, elle est encore obligée d'être militante aujourd'hui.
J'ai envie de vous poser la question, Julien, est-ce que c'est différent en ville ou à la campagne ? Paris,
Périgord, vous voyez ce que je veux dire ?
Alors, elle aurait tendance à vous dire, si elle était là, que notre Dordogne profonde peut être très représentatif du monde actuel, avec énormément de cas qui ne sont pas forcément révélés, parce qu'effectivement, dans les familles, c'est pas tout le temps aussi clair que dans la nôtre, mais que un petit village comme le nôtre est très représentatif, qu'on peut avoir tous les genres et toutes les orientations sexuelles.
Pour Julien, être parent allié, c'est bien, mais ça ne suffit plus.
Aujourd'hui, c'est pas. Je suis aussi chef d'entreprise, et c'est pas l'acceptation uniquement des enfants, c'est l'acceptation d'une être allié avec la société actuelle. Et la société actuelle fait que dans mes employés, il y aura autant d'orientations sexuelles que nécessaire.
Pour vous, les alliés, ça ne doit pas se limiter au cercle familial, c'est ça ?
Ah non, il faut que ça vienne de la part de tout le monde maintenant. Ça y est, il faut que les gens se réveillent et comprennent que finalement on est comme on est, et c'est ça le plus intéressant. C'est que le monde est différent d'une rue à l'autre, mais qu'on doit tous apprendre à vivre ensemble.
Au fond, un enfant n'est pas un projet qu'on programme. C'est une vie qui arrive avec sa propre liberté. Et si cette liberté vous fait peur, alors mon conseil est simple. Si vous ne voulez pas d'enfant gay, ne faites pas d'enfant tout court.
Bonjour Edoui Plenel.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Inter cet après-midi. Journaliste, ancien directeur de la rédaction du Monde, cofondateur de Mediapart, vous écrivez aussi des livres, dont le dernier, La démocratie n'est pas l'élection, aux éditions Seuil Libelle, un livre dans lequel vous expliquez pourquoi la primauté de l'élection appauvrit l'idéal démocratique. C'est très intéressant, très ancré dans l'actualité. Vous allez tout nous expliquer. Ce titre, Edoui Plenel, ça veut dire que l'élection n'est pas un blanc-seing. Il ne faut pas que ça soit un blanc-seing, ce qu'elle est un peu devenue dans notre pays.
C'est même plus que ça. C'est-à-dire que il pourrait d'ailleurs y avoir d'autres façons de choisir des représentants, le tirage au sort, ouais. L'élection est une modalité parmi d'autres. L'idée, c'est surtout de nous alarmer au spectacle que nous avons actuellement dans le monde et qui nous menace de pouvoir élus, qui à partir du moment où ils sont élus, disent « j'ai tous les pouvoirs, ouais. y compris celui d'abîmer, de malmener, de mettre en cause la démocratie. »
Le système qui m'a élu.
Il suffit d'aller regarder les États-Unis d'Amérique. Mmh. Ils ne malmènent pas que la démocratie américaine, ils malmènent le monde entier, le droit international, et ils nous emmènent dans un gouffre qu'il a déjà mené beaucoup plus d'attaques guerrières à l'échelle du monde que son prédécesseur Biden. Donc, mon interrogation est celle-là. C'est-à-dire qu'à force de limiter la démocratie à l'élection, on permet que l'élection mette au pouvoir des non-démocrates.
Pardon, mais qui a limité la démocratie à l'élection ?
Notre propre conversion, notre propre lassitude, notre propre renoncement. La démocratie, ce n'est pas que choisir des représentants. C'est veiller à ce que la presse soit libre, c'est veiller à ce que la justice soit indépendante, c'est défendre le droit de s'organiser, le droit de manifester, le droit de protester, le droit de se syndiquer. Et tout ce qui fait le quotidien de nos débats publics, et où on voit bien qu'on a de plus en plus, y compris dans ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, des cours autoritaires qui malmènent cet idéal démocratique. Prenez même ce président actuel, M. Macron, on l'a élu deux fois contre l'extrême droite. Il a donc gagné avec des votes d'une très grande diversité, pas seulement des gens qui disaient « je suis d'accord avec tout ce que vous dites », et il n'en a pas tenu compte jusqu'à il y a deux ans, ne même pas tenir compte du résultat des législatives qui mettaient le bloc du nouveau Front populaire en tête. Donc, mon alarme à un an de la présidentielle, c'est qu'on va repartir dans la course des petits chevaux, avec les compétitions, les sectarismes, les divisions que tout le monde connaît, et du coup, on va accepter encore une fois d'être dépossédé de l'essentiel. La seule façon de protéger ceux qui garantit notre vitalité démocratique, c'est notre propre organisation, notre propre investissement, notre propre mobilisation autour de tout cela.
Mais ça veut dire que là, un an, faudrait tout renverser ? Vous parliez de tirage au sort, vous pensez qu'on est prêt à à inverser complètement les institutions pour pouvoir mettre des gens, puisque ça, est-ce que ça marcherait le tirage au sort?
Non, je ne plaide pas pour le tirage au sort au sens de le faire dès maintenant. D'ailleurs, il y a un écrivain belge néerlandophone, David van der Broek, qui avait fait un petit livre contre les élections où il plaidait pour le tirage au sort dans un système en Belgique qui est parlementaire. Hein, mm-hmm. On n'est pas un seul président qui confisque tout, ou le pouvoir d'un seul confisque la volonté de tous. Non, je dis pas qu'il faut renverser tout au sens d'une question de procédure électorale. Je dis simplement qu'il faut préserver ce qui fait la vitalité d'une démocratie. Le bulletin de vote ne nous protégera pas, ne suffira pas à nous protéger. Les vents mauvais qu'il y a tout autour du monde, quel que soit celle ou celui qui sera élu dans un an, même s'il n'est pas d'extrême droite, ils continueront à souffler. Donc il faut s'occuper, encore une fois, de l'intégrité de la presse, il faut s'occuper de l'indépendance de la justice, il faut s'occuper de protéger tout ce qui se passe au niveau des organisations syndicales, de la vitalité, encore une fois, de la société. Et ne pas accepter ce qui s'est mis en place et qui crée ce sentiment où nous devenons totalement spectateurs. Nous-mêmes, en tant que journalistes, nous commentons une course des petits chevaux avec sa personnalisation et c'est très très loin de nos préoccupations et des soucis immédiats de toutes les personnes qui sont concernées, c'est-à-dire nos concitoyens et nos concitoyennes.
Merci Edoui Plenel d'être venu nous livrer votre vision de la démocratie. Dans un instant, un zoom zoom test sur les pollucrates, ces milliardaires qui polluent la planète tout en nous donnant des leçons. On parlera ensuite de l'exorbitant pouvoir de nomination du président de la République. Le temps de s'écouter un duo sacrément testéroné, Gaëtan Roussel et Bernard Lavilliers. Lové sur France Inter.
Lové, 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 nos deux corps dans la lumière et nos yeux sous nos paupières. Fermé, 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 rêve d'un monde imaginaire, par un amour légendaire. Porté, porté, porté d'une vie moins terre à terre. Nous sommes des êtres vivants, chahutés par moments, fragile et émouvant. Voler, voler, voler vers un diamant solidaire, une route imaginaire, bordée, bordée, bordée de résine à la lisière et de fleurs d'une sincère beauté, 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 nos visages qui s'éclairent.
Nous sommes des êtres vivant, chahuté par moments, fragile et mouvant.
Des êtres vivants, chahuté par moments, sensible et chancelant.
Caché, 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 la vie comme un grand mystère, une énigme, un caractère. Trempé, trempé.
Mais vers où coule la rivière? Dans quel sens, quel hémisphère? Chercher, chercher, chercher nos deux corps dans la lumière.
Nous sommes des êtres vivants, chahutés par moments, fragiles et émouvants.
Et nos cœurs qui accélèrent, soudé, soudé, soudé,
rêve d'un espoir, d'une première,
d'une île, d'un itinéraire, d'un soleil que l'on espère. Briller, 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 d'un espoir, d'une première,
d'une île, d'un itinéraire.
Nous sommes des êtres vivants, chahutés par moments, fragiles et émouvants. Des êtres vivants, chahutés par moments, sensibles et chancelants.
Thank you.
Zoom Zen, les meilleurs moments sur France Inter.
Un quiz consacré non pas aux émissions des vols en jet privé de Bernard Arnault, mais des petits gestes du quotidien que nous faisons tous. On démarre avec le plus anodin, le mail. Et vous allez voir que anodin ne rime pas forcément avec sobriété énergétique. Prenons au hasard le dernier courriel envoyé par Pierre Courade au SAV de Darty, dont l'objet était « Vous savez qui je suis ?» Point d'interrogation, 17 points d'exclamation. Oh. C'est une longue histoire dont l'intérêt est limité, mais qu'il faut quand même résumer dans les grandes lignes. Le vélo de Pierre a eu une défaillance suite à laquelle il a contacté le SAV de Darty, car oui, il y a des gens en 2026 qui achètent leur vélo électrique chez Darty. Darty propose de remplacer le vélo par un vélo équivalent. Là, le sang de Pierre ne fait qu'un tour. Ils n'ont jamais vu un lourdet en colère. Ils vont comprendre leur douleur. Là, il rédige un mail rageur en tapant très fort sur son clavier, c'est-à-dire encore plus fort que d'habitude.
Insupportable.
Déjà, il est à 90 décibels en temps normal. D'après vous, en dehors de sa mauvaise foi, qu'est-ce qui va polluer le plus dans son mail ?
C'est très lent, ça. Hein.
C'est un vieux clavier, ça.
C'est un vieux clavier, il tape doucement.
C'est une personne de 75 ans. Là.
Pierre Courade n'est plus très jeune lui-même, je vous rappelle. Ouais. L'énergie consommée par les serveurs pour transporter et stocker le courriel, l'amortissement de la fabrication de son ordinateur utilisé pour l'écrire et pour le lire, ou les 76 photos de son vélo qu'il a mises en pièces jointes qui mobilisent les data centers en permanence.
Les trois.
C'est.
Mais non, là, il y a une note de grandeur. Je demande lequel est le plus polluant.
Le C.
Non, le A. Le stockage.
Ça, c'était la réponse B. Vous restez bloqués à zéro, les amis. Réponse B. Selon Basile Figuera, consultant en stratégie bas carbone et expert en mesure d'empreinte carbone du numérique, l'empreinte carbone d'un mail avec une pièce jointe d'un mégaoctet émet 3,3 grammes de CO2. Sont essentiellement répartis ainsi. 69% pour l'amortissement, je vous le disais, de la fabrication de l'ordinateur qui sert à écrire le mail. 23% pour celui qui sert à lire le mail. La consommation d'énergie sur tout le process ne représentant que 7,7%. Ah ouais. Et tout ça, ça forme évidemment 100% de plaisir informatif. Mais continuons. Continuons avec le célèbre week-end de la honte de Cyril Lacarrière.
Ah oui. 20 000, ça, c'est un vrai.
20 000 km pour aller voir des milliardaires chanter l'oppression du peuple irlandais. Quand on a les lombaires qui jouent au Molki, ça esquinte. Je vais quand même pas me taper.
Arrêtez les chafouins déjà.
Je vais quand même pas me taper 24 heures d'avion en classe éco avec la plèbe. Je vais pas polluer plus en business. Lâchez-moi les Jordan et Rasta blanc. Telle fut la réponse de Cyril au pisse vinaigre qui trouvait qu'il poussait le bouchon du je m'en foutisme climatique un peu loin. Et une fois de plus, Cyril avait parfaitement raison, car l'empreinte carbone en business class est exactement la même qu'en classe éco. Une fois de plus, Cyril a totalement tort, car voyager en business class pollue deux fois plus qu'en classe éco. Ou une fois n'est pas coutume, Cyril se fourre le doigt dans l'œil jusqu'à l'os, car la business pollue entre 3 et 9 fois plus que la classe économique.
C'est
dit avant.
Je crois pas.
Quentin est devant. Ouais. Eh oui, Manon, il faut accepter sa défaite. Selon une étude de la Banque mondiale, un siège business occupe la surface de 2 ou 3 sièges éco, augmentant ainsi mécaniquement l'émission de CO2 attribuée à chaque passager, sans compter le poids des sièges inclinables, les équipements supplémentaires qui augmentent la consommation de kérosène et le taux de remplissage plus bas de la classe affaires. Conclusion, si Cyril avait vraiment aimé la planète, il ne serait pas allé à Las Vegas en business, mais à Alençon, en TER, voire intérieur nuit.
Il n'y en a plus.
Mais continuons à éclater les idées reçues.
Bon. Non, il n'y a plus de train.
J'ai dit le groupe est dissous.
Le groupe est dissous, mais il peut se reformer à tout moment.
Oui, parce que l'amitié est toujours là.
Continuons à éclater les idées reçues avec le Nunchaku du Gai Savoie. On reste en France, avec Cyril toujours, qui chaque dimanche, après la messe, aime s'attabler autour d'une bonne côte de bœuf d'origine argentine. Manon, qui est désormais souvent avec lui le dimanche, accomplissant la prophétie d'un article généré par IA, lève les yeux au ciel et soupire l'air de dire « Décidément, Cyril, il s'en fout complètement de son empreinte carbone. » D'après vous, qui a raison ? Eh bien, je vais vous le dire. Celui qui a raison, c'est celui qui estime que une côte de bœuf importée d'Argentine pollue à peine plus qu'une côte de bœuf limousine. Celui qui dit qu'elle pollue 2 fois plus. Celui qui dit qu'elle pollue 10 fois plus.
Oh, c'est dur.
A.
B.
Pas tant plus.
Vous restez sûr. Pas tant plus, finalement.
Bah quand même, il y a le B.
Ben, c'est une bonne réponse de Manon Marie.
Ah oui.
Eh oui. Eh oui, Manon. Il a bien raison de se faire plaisir, mon Cyril. Enfin, en l'occurrence, visiblement, plus votre Cyril, puisque moi, je ne traîne pas avec lui le week-end.
Il a raison.
La production d'un kilo de bœuf.
C'est fausse rumeur.
Oui,
enfin, vous nous envoyez des photos étonnantes. La production d'un kilo de bœuf est tellement impactante en elle-même, le méthane rejeté par les bovins, la gestion du fumier, la fabrication des aliments, que les 0,5 à 1 kilo de CO2 émis par transport en bateau ne représentent rien face aux 60 kilos de CO2 dégagés pour produire 1 kilo de T-bone. On se relâche pas, on termine avec une séquence.
Si Cyril se relâche, en termes d'émissions de CO2, on sera plus haut.
C'est
extrêmement glamour, cette réflexion, Quentin. On se relâche pas, on termine avec une séquence presque aussi culte que le Zoom Zoom Zinc, le vrai ou faux express. Vrai ou faux, l'air fryer de Manon consomme moins qu'un four traditionnel parce qu'elle ne s'en sert pas.
Vrai,
mais aussi parce que le volume plus faible et l'absence de préchauffage consomment moins. Vrai ou faux, un programme séchage rapide sur un sèche-linge permet d'économiser de l'énergie.
Faux.
Oh, c'est faux.
C'est faux. Ouais. Le programme rapide pousse la résistance à fond et consomme davantage que le programme éco. Enfin, vrai ou faux, une voiture électrique neuve est plus polluante qu'une thermique.
Faux. C'est vrai.
C'est vrai.
It's too late.
Parce que la construction d'une voiture électrique émet plus de CO2 que celle d'une thermique, notamment en raison du coût environnemental de la batterie. Ce n'est qu'au bout de 40 000
km. Sur le long terme, bien 40, sûr.
Évidemment, rappelons-le. Donc 40
en une année,
km.
Quoi.
Si vous faites 40 000 km par an, vous êtes vraiment un gros rouleur.
Un roule, quoi, oui.
Dans Paris, 40 000 km par an, ça fait beaucoup, Quentin.
On part en vacances.
Oui, vous partez beaucoup en vacances, disons, Quentin. Vous avez beaucoup de vacances. Hein. Bon, bref. Victoire de Marianoche, me dit-on.
J'ai cru un instant que vous alliez me marioniser. J'allais très mal le prendre.
Quoi ?
Victoire des Marions !
Ouais, c'est
ça. Ça fait combien d'années que je vous ai pas marionisé ?
4 ans, Mathieu.
Très bien. Des milliers de personnes nommées chaque année par un seul homme, le président de la République. Zoom cet après-midi sur ces nominations souvent opaques avec le journaliste Michael Moreau qui publie justement « Sa Majesté nomme, enquête sur un pouvoir présidentiel exorbitant ». C'est chez Robert Laffont. Michael, vous citez dans votre livre Laurent Fabius qui vous dit que ce pouvoir de nomination peut parfois céder le pas à un certain entre-soi. Est-ce que c'est pas ça, au fond, le véritable danger de ce système ?
Si, clairement. Les nominations provoquent notamment des polémiques quand il y a des... quand on nomme des proches, c'est déjà arrivé, sous tous les présidents de la République. Je raconte quelques cas. François Mitterrand qui a nommé, par exemple, un ami médecin ambassadeur alors qu'il n'avait aucune expérience dans la diplomatie. Mais des cas aussi plus récents, des cas... Quand c'est déjà arrivé que le critère de proximité prenne le pas sur le critère de compétence, y compris sous tous les présidents de la République, puisque le président de la République choisit seul et parfois aime nommer des proches, des gens de confiance.
Des gens de confiance, ça peut se comprendre aussi. Après, est-ce que... Alors, je vais envoyer quelques fleurs à Nicolas Sarkozy, c'est pas tous les jours, vous pouvez noter ce moment. Est-ce que Nicolas Sarkozy, il n'a pas fait l'inverse ? C'est-à-dire qu'il a beaucoup nommé des personnes en dehors de son camp politique, comme on se souvient le socialiste Didier Migaud à la tête de la Cour des comptes. Est-ce que c'est pas ça qui fait défaut, peut-être, à Emmanuel Macron ? Il nomme que des proches qui sont aussi dans son camp politique.
Alors, Nicolas Sarkozy a aussi nommé des proches, parce que, par exemple, oui, il y a eu des aussi. Polémiques quand Arnaud Klarsfeld a été nommé au Conseil d'État, qui était conseiller avant de François Fillon et qui avait été candidat malheureux aux législatives de 2007. Après, il a nommé, effectivement, par exemple, il a réformé un peu les institutions, par exemple en donnant effectivement à des opposants des gros postes, comme par exemple la présidence de la Cour des comptes, en réformant aussi, en imposant des auditions devant le Parlement pour certains postes, ce qui ne se faisait pas avant. Ce qui permet d'écarter aussi, à partir du moment où il y a un grand oral, des nominations totalement farfelues. Donc il y a eu quelques innovations.
Il s'en est beaucoup vanté. On se souvient du débat entre deux tours en 2012 où il rappelle à François Hollande qu'il a nommé toutes ces personnes qui étaient issues de l'opposition. Oui. C'était aussi un argument. Ça peut aussi être un argument après.
Ça peut être un argument après, même si, encore une fois, il y a eu aussi des polémiques sous tous les présidents, et dont Nicolas Sarkozy.
En parlant d'arguments, vous connaissez celui, en ce qui concerne les dernières nominations d'Emmanuel Macron, il placerait avant tout des centristes, des modérés, à des postes clé pour éviter que ce soit l'extrême droite qui le fasse si l'extrême droite arrive au pouvoir pour verrouiller un peu les institutions du pays. Alors, ça tient la route comme théorie ?
Alors, il y a un débat actuel parce qu'il y a beaucoup de... Il se trouve qu'en ce moment, c'est à la fois une fin de règne et en plus, il y a des postes à pourvoir qui sont des postes, parmi ces postes, il y a des postes inamovibles. C'est-à-dire notamment à la tête de grandes institutions gardiennes de l'état de droit, bientôt le Conseil d'État, il y a eu le Conseil constitutionnel il y a un an, il y a eu la Cour des comptes. Ces postes-là, donc c'est des personnes qui ont été nommées qui pourront être dénommé par le président ou la présidente de la République qui sera nommée l'année prochaine. Même si dans les faits, la personne qui va être élue l'année prochaine pourra nommer, puisque c'est l'objet du livre, énormément de
postes, notamment
tous les hauts fonctionnaires, évidemment, les directeurs d'administration centrale, mais énormément.
Il n'y a aucun garde-fou à ce pouvoir-là ? C'est-à-dire que si jamais demain, quelqu'un qui a des velléités totalitaires en France, la Constitution ne prévoit pas des garde-fous.
Alors, il y a quand même normalement, il y a des nominations qui passent même en Conseil des ministres.
Oui, c'est ça.
Les ministres sont censés avoir aussi un mot à dire. Il y a des nominations qui, depuis 2008, doivent passer devant le Parlement, même si, avec des auditions, même si c'est très difficile dans les faits, je l'explique, pour le Parlement de s'opposer à une nomination présidentielle. C'est arrivé qu'une seule fois depuis 2008.
Vous parlez dans votre livre d'une pratique qui s'appelle le tour extérieur. De quoi s'agit-il ? C'est quoi
C'est pour les institutions type Conseil d'État, type Cour des comptes. Il se trouve que c'est une pratique qui a été réduite par Emmanuel Emmanuel Macron, c'est en fait le président de la République choisit d'y nommer qui il veut. Donc c'est, ça a été souvent parfois des conseillers de l'Élysée.
Il y a un entretien, on dépose un CV. Comment on candidate à ce genre de poste ? C'est le chef de l'État lui-même.
Alors pour le tour extérieur, c'est le chef de l'État qui décide. Après il y a d'autres postes à la Cour des comptes ou au Conseil d'État où là il y a des procédures.
Est-ce que pour vous, le fait que Emmanuel Macron s'occupe lui-même, vous nous l'avez dit, même pas de choisir des entretiens d'embauche, oui, quelque part, ça démontre ce que certains lui reprochent, son côté, justement, cette fibre monarchique, un peu ce goût pour le pouvoir concret.
C'est un pouvoir en plus considérable, parce que c'est un pouvoir sur les gens. On défait les carrières. On y passe du coup, ça provoque aussi des phénomènes de cour. Donc, retrouve le pouvoir monarchique. Mm-hmm. C'est ça aujourd'hui qui fait débat.
L'heure d'ouvrir la pièce jointe de Magnon Mariani. Oh, à vous.
Ok. Un documentaire Arte aujourd'hui intitulé « Qu'est-ce qu'on va faire de toi ?» Que pensent les enfants du monde dans lequel ils grandissent ? C'est la question au cœur de ce doc. Pendant un an, les réalisatrices Salma Chedadi et Karel Fitoussi ont filmé les élèves d'une classe de grande section de maternelle dans l'école Popincourt dans le 11e arrondissement de Paris, un établissement classé en réseau d'éducation prioritaire. La caméra se place à hauteur d'enfant, on ne voit jamais les adultes, on entend seulement leur voix de temps en temps. Et les discussions, elles, sont entièrement celles des élèves sur l'amitié, les disputes, l'égalité entre les filles et les garçons, la guerre en Ukraine ou encore les élections. Le film montre une véritable petite société d'enfants où se construisent déjà des idées, des règles et des valeurs. Dans la cour ou en classe, ils apprennent à débattre, à se contredire, à défendre aussi leurs camarades, à dénoncer des injustices. Par exemple, dans une scène, un débat éclate quand un élève estime que la place des femmes, c'est à la cuisine. Et bien, une petite proteste et dit que chez elle, et bien, c'est son papa qui fait la vaisselle. Dans une autre scène, Félix explique qu'il n'aime pas la guerre des garçons, je le cite, et préfère éviter les bagarres. Et puis, le documentaire révèle aussi les inégalités qui traversent l'école, on en parlait. Certains élèves viennent de milieux favorisés, alors que d'autres vivent dans des familles très précaires, parfois logées dans des hôtels. C'est le cas du petit Moussa, qui doit quitter sa classe et ses amis parce qu'il est obligé de déménager.
Moi, je pars demain. Je veux aller dans une maison à côté de mon école. Maintenant, je suis passée dans une maison d'un hôtel. On a changé de maison.
Au fil des scènes, ce qui devait être un simple film sur l'enfance devient presque un portrait miniature de la société française avec ses tensions, ses solidarités, ses rapports de pouvoir, mais aussi énormément de tendresse. Qu'est-ce qu'on va faire de toi ? Rappelle finalement une chose simple. À l'école, on n'apprend pas seulement à lire et à écrire, on apprend déjà à faire société.
Merci Manon. La chronique de Camille Lorente, c'est juste après Archive Bullets sur France Inter. Skin, there is a violence. It's got a gun in its hands, ready to make sense of anyone, anything. Black holes living in the side of your face, razor wire spinning around your
responsibility. Confine me, let me be the lesser of a beautiful man without the blood on his hands. Come and make me a martyr, come and break my feeling with your violence, with the gun in my head. Ready to take out anyone, anywhere, anyone, anywhere, anyone, anywhere, anyone, anywhere, anyone, anywhere. Black holes living in the side of your face, razor wire spinning around your head.
responsibility personal, responsibility personal, responsibility personal, responsibility.
France Inter, les meilleurs moments de Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël et toute sa bande.
Nous pensions recevoir Camille Lorente pour clore cette émission, mais non, c'est son alter ego la plus engagée qui nous rejoint.
Salut les manes, et eh oui, c'est Camouze, alias Camtar, alias Chemsex, pour ceux qui m'ont rencontré au festival Sex Positive à Crépigny-la-Forêt. Je faisais partie des bénévoles de l'atelier Bad Trip et Vaginisme. C'était toute une époque, hein. J'ai eu des rapports non protégés avec un séquoia. Je suis malheureusement pas tombée enceinte, très déçue. Moi qui voulais, enfin, j'ai toujours voulu un enfant métis, mais bon, en tout cas, ravie d'être à nouveau à l'antenne. Ardèche libre, bien sûr. Hein.
Ouais, évidemment.
On lâche pas le combat, ben moi on m'a dit émission sur les Kurdes, vraiment ça a fait écho ben, à mon parcours quoi, puisque ben, les Ardéchois on est aussi une nation sans pays et ça fait des années qu'on se bat avec le collectif Ardèche Autonome qui compte pas moins de 13 membres déjà, enfin même 14 si on compte Alex qui vient du Puy-en-Velay, mais voilà, réfugié politique. En tout cas, ben, on se donne à fond quoi, enfin c'est pas pour rien qu'on nous appelle les Kurdes d'Auvergne-Rhône-Alpes. Bon, juste on a dû annuler la dernière AG parce que la hutte de sudation de Véro a pris feu, enfin sale histoire, mais bref, résultat de toutes ces années de lutte, ben rien, enfin ça avance pas du tout, donc la preuve aussi qu'on dérange, mais on est grave motivés, enfin il y a de belles idées. Moi j'avais proposé par exemple un gouvernement basé sur les préceptes de Jah, du rastafarisme. Ben, après on m'a expliqué que c'était probablement une théocratie, donc j'ai un peu lâché le projet, mais j'avais aussi pensé à fabriquer une frontière naturelle en creusant le sol avec des pelles jusqu'à ce que l'Ardèche se détache tout naturellement du reste du pays quoi. Bon, les Kurdes eux ils sont prêts à se battre pour leur liberté, risquer de mourir et tout, donc j'avoue nous pas de ouf, mais
ah oui.
Enfin, bah, y a quand même un de nos camarades qui est mort, mais c'était pas directement lié à la lutte, un accident de monocycle, voilà. Nitro, rest in peace. Mais ça m'a vachement passionné en tout cas les Kurdes. Enfin, je lisais la doc là pour préparer l'émission et tout. Ça détaillait tous les enjeux géopolitiques. Enfin, c'est marrant. Enfin, je lisais et je comprenais tous les mots, mais pas le sens global, quoi. Et vraiment, j'ai senti que je repoussais les limites de mon cognitif, quoi. C'est comme quand tu parles d'égalité femmes-hommes avec Cyril. T'sais, petit bug. Tu sens que tu touches une frontière. Là. Ben, Adèle Bakaouane, en tout cas, vous chapeau parce que vous comprenez tout à la géopolitique. Il y a quelques mois, vous avez été interviewée et vous avez prophétisé tout ce qui se passe actuellement au Moyen-Orient. Donc, du coup, j'ai grave envie de profiter de votre expertise. Enfin, voilà, un horizon de 3-4 mois. Est-ce que vous pensez peut-être que je vais ken autre chose que des fils à papa en rupture sociale qui vivent dans des caravanes au fond du jardin de leurs parents blindax? Bon, je vous laisse. Non, parce que ça joue de la gratte avec des ongles tout noirs, persuadés de faire partie du club des 27, mais t'as 38 ans, Pierrick, t'as 38 ans. Wake up, en fait. Enfin, vous me direz hors antenne, Adèle. Moi, il faut que je file au local, puisque ce soir, on a une soirée découverte et solidarité au profit d'un migrant. Enfin, c'est la nif d'Alex, le gars du Puy-en-Velay, mais voilà, c'est moi qui dois préparer la marquisette, donc go.
On comprend. Merci Camille Lorente, merci Alicia Vullo d'avoir réalisé ce best-of. On se retrouve lundi. On parlera des 6 ans du Covid et aussi du premier tour des municipales. D'ici là, bon week-end. Zen.